Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, notre invité s'appelle Robin Allouz. C'est lui qui est à l'origine de toute une protection qui se met en place le long de la plage de Balavas. On va donc en discuter avec lui. Robin, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors, vous avez été... D'abord, vous allez peut-être nous dire un petit peu plus qui vous êtes.
Oui, complètement. Écoutez, moi, à la base, je suis un Montpelliérain pur souche et étudiant à l'Université de Montpellier. De formation, je suis océanographe en physique du littoral, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à la physique, des plages et des vagues, ainsi qu'aux risques...
Qu'est-ce que c'est la physique Qu'est-ce que c'est la physique du littoral
La physique du littoral, c'est comprendre quels sont finalement les processus physiques et derrière même les maths qu'il y a au niveau de la dynamique des vagues qu'on voit déferler sur la plage et comment la plage réagit à cette dynamique-là, comment également ça se couple avec les courants, les sédiments. Voilà, donc c'est de la physique qui est très complexe, ça reste de la physique des ondes, un petit peu comme en optique. Et j'ai également une deuxième casquette.
Alors, c'est combien d'années d'études pour comprendre tout ça?
C'est soit minimum un master 2, soit une thèse en océanographie physique. Voilà,
et aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de jeunes qui écoutent Radio Divergence et qui sont un peu anxieux sur l'avenir, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant comme métier?
Oui, c'est un métier intéressant et qui est de plus en plus en vogue, je dirais, au sens où les enjeux croient d'année en année. Du coup, il y a énormément de dynamiques tant dans les territoires au sein des collectivités que dans les bureaux d'études, les start-up, les porteurs de solutions et les gestionnaires et les donneurs d'ordre.
Donc quelque chose qu'on peut conseiller.
Oui, complètement. Disons que c'est un métier où moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, il y avait très peu de place et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Voilà, ce qui fait plaisir au regard des enjeux à traiter.
Bien. Alors, vous avez donc fait un certain nombre d'années d'études et puis un jour, vous avez décidé de créer votre boîte ou bien vous avez avant roulé beaucoup votre boss.
Alors, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse, mais toujours avec l'idée de créer Lineup Océan. Donc il y a une start-up montpelliéraine, aujourd'hui qui a 3 ans. Effectivement, c'est une idée qui a émergé avec un ami qui était écologue en milieu aquatique à la suite de mes études d'océanographe. Vraiment à la fin de mes études. Et j'ai fait le choix, ça a animé quelque chose en moi. Et j'ai fait le choix de créer cette société, qui est une société à mission, je reviendrai dessus. C'est la seule société à mission de son secteur d'activité. Et donc pour ça, j'ai dû me reformer en écologie marine. Voilà, c'est ma deuxième casquette scientifique. Donc j'ai un double master en océanographie, risque côtier, et également en écologie marine, en ingénierie écologique plus exactement. Et je me suis également formé à l'entrepreneuriat pour avoir un peu de bille, pour être un bon entrepreneur, on va dire. Voilà.
Mais pourtant, vous êtes jeune.
Ouais, je vais faire mes 33 ans là, cette année. Voilà. Donc, après, je pense que c'est des projets qui méritent d'être mûris, réfléchis et vraiment bien appréhendés au plus tôt, parce qu'on parle souvent de ce qu'on est prêt quand on entreprend, mais pas de ce qu'on est prêt à perdre. Et donc la prise de risque, la complexité des projets et l'engagement, il doit être quand même bien réfléchi en amont, bien mûri et surtout aligné avec.
Il faut assumer
les problèmes, il faut assumer les difficultés et toujours garder cette passion qui nous anime. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc c'est ce qui me porte avec une équipe incroyable.
Passionné, vous avez l'air.
Avec une équipe incroyable à mes côtés que je tiens à remercier infiniment, puisque sans eux, on n'en serait pas là.
Alors, et vous êtes combien ?
On est 9 à l'heure actuelle.
C'est beaucoup ?
Oui, moi à l'époque, il n'y avait pas de boulot en océanographie, donc je pense que ce qui me rend vraiment fier au quotidien, c'est de me dire, j'ai réussi à créer mon emploi, en tout cas mon poste, et également celui de 8 autres personnes, Et voilà, ayant passé par des petits boulots pour essayer de survivre pendant un certain temps, c'est vraiment aujourd'hui une grande fierté.
Alors, voilà. Donc, vous avez participé dès le départ à cette préoccupation qui, aujourd'hui, est devenue une préoccupation que connaît le grand public, mais qui était très réservée il y a quelques années encore, qui était celui de la montée des eaux. Donc, vous avez commencé à travailler là-dessus et vous avez travaillé en dehors de Montpellier au départ, je suppose.
Alors, j'ai travaillé... alors, effectivement, moi, de base, je suis spécialisé dans la submersion marine. J'ai fait de la recherche fondamentale à Géosciences Montpellier. Voilà, donc, c'est des sujets que j'ai toujours abordés au sein du laboratoire. Également, la mise en place de solutions. Et je me suis intéressé à divers sites qui étaient sur le littoral occitan, voilà, qui étaient soumis à des risques d'érosion et de submersion, dont notamment la plage de mon enfance, qui est située au Gros d'Agde, donc à côté, voilà, sur le territoire héro-méditerranéen, à côté d'Agde et du Cap d'Agde. Et c'est là-bas, c'est sur la plage de mon enfance, que l'idée du projet de Line-Up est née. Voilà, et où en fait, on s'était dit, à cet endroit-là, il faut une solution un petit peu spécifique qui réponde à plusieurs problématiques d'aménagement du trait de côte, c'est-à-dire.
Alors, ils ont commencé avant vous, parce qu'ils ont immergé, je crois, enfin, peut-être que vous allez me contredire, mais je crois qu'ils ont été les premiers sur Agde à immerger des énormes récifs en béton.
Oui, complètement, complètement. Ça a été vraiment un territoire pionnier et pilote pour la mise en œuvre d'une nouvelle génération de récifs artificiels. Voilà, que j'ai vu finalement se mettre à l'eau au fur et à mesure de l'avancement du projet de Line-Up Océan. Donc voilà, c'est une initiative qui a le mérite d'être vraiment pionnière dans le domaine. À l'époque, avant ça, quand j'étais jeune, j'ai vu aussi la mise en place de différents brise-lames, donc vraiment des enrochements qu'on va retrouver parallèles à la plage et qui étaient là pour protéger justement la plage pendant les tempêtes hivernales. Puisque pour la petite histoire, moi quand j'étais petit,
On va tout de suite essayer d'être un peu concret et de donner, puisqu'on n'a pas d'image malheureusement, puisqu'on est en radio, donc c'est un peu compliqué. On parle d'épi, on parle de brise-lame, on parle de tombolo, on parle de récifs. Essayez un peu de nous expliquer. Donc, on a une plage qui est mangée par la mer et la mer emmène le sable au loin. Et c'est comme ça que la plage...
Absolument.
Bon, en gros, c'est ça, voilà. Alors, on complexifiera tout à l'heure parce qu'en plus, sur Palavas, on a des étangs derrière, donc, qui jouent un
absolument.
Rôle. Mais restons au bord de la plage puisque c'est un peu là-dessus que finalement, on a travaillé dans les dernières années. On se préoccupait essentiellement des plages.
Voilà, tout à fait. Donc, ça a été surtout développé dans le cadre de la mission Racine pour aménager le littoral occitan à la suite de la création des congés payés dans les années 70. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des solutions relativement classiques d'enrochement, de protection côtière. Donc, on amasse des cailloux sous la forme de petites digues qui sont soit parallèles à cette plage, soit perpendiculaires. Là, on va distinguer les brise-lames qui sont parallèles. Eux, leur rôle, c'est de créer en fait des baies et des avancées de flèches sableuses qu'on va appeler les tombolos. C'est généralement les grandes avancées que vous voyez justement derrière ces brise-lames quand vous vous baladez sur la plage. Eux, leur rôle, c'est vraiment de finalement, alors sans utiliser trop de termes techniques, mais un petit peu d'éclater les vagues quand elles arrivent entre les deux brise-lames. On va avoir vraiment un effet de baie. Voilà, qui va se créer.
Le sable a tendance à se mettre sur les côtés.
Le sable a tendance à se mettre sur les côtés et à revenir vers le large, sauf qu'il est bloqué par les brise-lames. Et c'est ça qui forme les tombolos. Voilà, ce sont des flèches sableuses qui avancent vers le large, grâce aux brise-lames.
D'accord. Alors, les brise-lames, ils sont parallèles, donc, à la côte.
Tout à fait.
Et alors, ils ont, pour l'instant, un double rôle. C'est-à-dire qu'ils cassent déjà quand même un peu les vagues et ils retiennent le sable.
Tout à fait.
Mais ils le retiennent trop.
Alors, ils le retiennent trop ou ils le retiennent mal ? Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'était des ouvrages qui ont été dimensionnés à l'époque avec les connaissances de l'époque. Il faut remettre la situation, enfin l'ingénierie dans son contexte. On avait certaines connaissances. Et donc, il y a eu des choix d'aménagement qui, effectivement, aujourd'hui, ne sont plus du tout adaptés au contexte climatique ou socio-économique du littoral. Et c'est ça qui, parfois, en local, en tout cas, on reviendra sur le sujet très certainement, mais créer de la maladaptation. Voilà. Donc aujourd'hui, la question se pose, est-ce que c'est brise-lames ? Déjà, est-ce qu'on connaît leur rôle sur un temps long ? Pas forcément. Nous, par exemple, chez Line-Up, on l'étudie en partie avec l'élévation du niveau de la mer. On ne sait pas quel va être leur rôle dans les prochaines décennies.
Comment ils vont fonctionner ? Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas.
Il y a beaucoup de questions. Exactement. C'est vraiment, il ne faut pas croire que la physique du littoral, elle est acquise depuis des années. Loin de là. Ça se complexifie avec les moyens, les connaissances, et donc on a beaucoup de travaux.
Moi, j'ai ajouté quelque chose. Je sais que vous êtes purement scientifique, donc vous me parlez de connaissances, mais moi, j'ajouterais quand même aussi la position des élus.
Bien sûr.
Je veux dire que j'ai quand même connu beaucoup d'élus qui n'acceptaient pas de prendre le taureau par les cornes et qui ont pendant des années fait du déni, enfin refusé de reconnaître que la mer mangeait du sable, donc ils remblayaient pendant l'été, enfin pendant l'hiver pour que la plage soit nickel au moment de l'été. Ça leur coûtait très cher, ça coûtait surtout très cher aux gens de leur commune. Et finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Alors aujourd'hui, finalement, ce déni est un peu en train de disparaître.
Oui, globalement, je pense que déjà depuis quelques temps, globalement, et depuis le Covid, si on peut le dire comme ça, il y a un réveil écologique assez général. Ce qui est plutôt une très bonne chose, en espérant que ce soit pas trop tard. Mais on va dire que les solutions qui étaient mises en œuvre à l'époque, c'était assez culturel. C'était basé sur de l'urgence et sur du visible, sur du palpable. Aujourd'hui, avec le recul et toute la vulgarisation qui a été faite autour des enjeux du changement climatique et des pressions humaines, notamment dans notre cas sur les plages et les fonds marins, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une prise de recul de la part des élus qui se projettent vraiment sur un temps beaucoup plus long et qui sont aptes à entendre finalement une situation actuelle et un devenir, une trajectoire qu'on ne maîtrise et qu'on ne connaît pas spécifiquement dans les prochaines décennies. On a une idée, mais on ne sait pas si ça va aller plus vite, plus fort. Personne ne sait à l'heure actuelle, ça, il faut être clair sur le sujet. Et donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus aptes à entendre la mise en œuvre de solutions variées. Je pense que peut-être on en parlera plus tard, mais c'est des solutions soit physiques de protection, soit d'adaptation des villes, il y a tout un panel de solutions.
Ils sont pas tous au même niveau
Ils sont pas tous au même niveau, mais disons qu'il y a des changements de posture qui sont visibles et qui sont vraiment bénéfiques, je pense, pour la suite, parce que du coup, il y a des villes quand même qui se positionnent comme pionnières également, à l'image d'Agde il y a quelques années, dans l'adaptation côtière. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que finalement, ces villes, qu'est-ce qui se passe ? Elles se regardent entre elles, elles voient qui teste des solutions, comment on fait, comment ils font, peut-être à l'autre bout de la France, et finalement, elles s'inspirent les unes les autres. Et voilà, et nous, on le sent, on le voit chez Line-Up pour travailler autant en Méditerranée qu'en Manche, en Atlantique et même à l'étranger. Il y a quand même une prise de conscience globale et parfois des changements de posture qui sont plutôt encourageants pour la suite.
Et des échanges de bonnes pratiques.
Et des échanges de bonnes pratiques, d'inspiration et parfois de l'innovation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les élus des villes côtières sont parfaitement conscients des enjeux de ce que l'innovation peut apporter. En termes d'adaptation au changement climatique.
Bien, alors, on va revenir à Palavas, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, après, effectivement, quand même un certain temps, un certain déni pour en ce qui concerne le maire Jean-Jean, on a eu quand même finalement, de sa part, il a été plusieurs fois rappelé à l'ordre, et récemment, il a décidé quand même de faire quelque chose. Alors ça a commencé par la mise en œuvre de caméras qu'il a installées. Alors qu'est-ce que c'était et à quoi ça servait ?
Alors en fait, il faut recontextualiser un petit peu, c'est que finalement, avant les caméras, c'est une stratégie globale sur Palavas qui a été mise en œuvre, qui s'appelle Palavas Horizon 2050. C'est important de le dire puisque au sein de cette stratégie-là que la mise en place des caméras s'est effectuée et que les solutions de Line-Up sont proposées sur le littoral palavasien.
Alors, il y avait un professeur derrière.
Voilà, exactement. En fait, cette stratégie, elle a été élaborée sur la base d'un partenariat, d'une convention qui a été passée entre l'Université de Montpellier et la ville de Palavas-les-Flots, sans échange financier. Ça, je peux le dire parce que ça a été rendu public. C'est-à-dire que vraiment, il y a un pur échange scientifique et politique entre les élus et le laboratoire Géosciences Montpellier, et plus particulièrement même l'Institut des plages Gladys, qui est représenté en local ici par le professeur Frédéric Bouchette. Voilà. Donc, cette stratégie vise à finalement réfléchir à l'avenir de Palavas à l'horizon 2050, donc, c'est-à-dire dans 30 ans. Hein, c'est déjà pas si loin. L'idée, c'est de dire, OK, comment on peut préparer finalement l'adaptation de Palavas vis-à-vis de l'élévation du niveau de la mer, vis-à-vis potentiellement de l'intensité, de l'augmentation de l'intensité des tempêtes, de leur fréquence, tout ça, sachant que derrière Palavas, il y a des étangs. Voilà. Donc c'est une ville vraiment « école », entre guillemets, pour ce type de stratégie. Et un premier volet qui a été identifié, c'était vraiment de pouvoir déjà connaître et suivre à très haute fréquence, c'est-à-dire en continu, toute l'année, voire même toutes les 10 minutes, moyenné de la mesure sur le littoral à partir de caméras haute fréquence. Donc ce sont des caméras qui font des mesures de vagues, et également de position du trait de côte, donc de la limite entre la terre et la mer. Voilà, donc toutes ces mesures-là, elles alimentent la compréhension du littoral à Palavas.
Alors, c'est là qu'intervient quand même la spécificité de Palavas, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement la mer, mais on a derrière des étangs, et que quand on a des événements climatiques durs, hein, obligatoirement, on peut avoir une conjonction entre ce qui se passe derrière et ce qui se passe devant.
Oui, bah globalement, vous allez avoir un forçage marin, voilà, qui va arriver du large, un forçage qui va venir du bassin versant, et effectivement, derrière, on a des risques de submersion ou d'inondation qui sont accrus dans ce contexte-là.
Donc c'est pour ça que Palavas se trouvait dans une situation où il fallait absolument réagir. Voilà. Alors, comme on a peu de temps, on va quand même tout de suite en venir au choix que vous avez fait. Donc, connaissant maintenant tous ces éléments qui vous ont été donnés par les caméras, etc., vous avez donc décidé de faire, alors d'où line-up, de faire un mur de béton. Non, je vais corriger tout de suite, mur de béton, c'est pas un mur. Alors, c'est quoi exactement?
Alors, déjà, nous, chez line-up, on est spécialisé dans l'éco-conception des aménagements maritimes. C'est-à-dire, en gros, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Alors, ce n'est pas vraiment un mur de béton, mais on va plutôt parler de digues sous-marines. Et c'est des digues qui se veulent beaucoup plus écologiques que celles qu'on a pu mettre en place, comme les brise-lames ou les épis, dont on n'a pas forcément parlé.
C'est plein de trous.
C'est plein de trous, effectivement. C'est une digue qui est très trouée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est inspiré de la forme d'écosystèmes naturels qui protègent naturellement les plages des assauts des tempêtes. Là-dedans, on a quoi? On a les mangroves, c'est les racines de palétuviers. On a également les herbiers marins qui ont un rôle majeur dans l'atténuation des vagues, et également les fonds rocheux. Les fonds rocheux, il y en a plein à Palavas.
Mais les fonds rocheux sont très rugueux. Ils sont trop longs, trop loin.
Alors c'est vrai qu'ils sont loin pour jouer un rôle immédiat sur la plage, en effet. Et surtout, ils sont dans un matériau qui est très friable. Donc voilà, ils s'effritent et malheureusement, ils ont tendance à régresser un petit peu et à se découvrir et à être érodés. Bon, en tout cas, n'empêche que si on mixe un petit peu tous les avantages en fait de l'architecture de ces écosystèmes, donc la tortuosité des mangroves.
Donc là, on sent que vous avez été un petit peu inspiré par le biomimétisme.
Exactement, c'est s'inspirer de ce que la nature a créé de mieux depuis 3,8 milliards d'années. C'est ça la philosophie du biomimétisme, c'est aller chercher dans la nature une source d'inspiration pour créer un procédé ou un produit nouveau qui permette de s'adapter durablement. C'est vraiment le but. Donc nous, voilà, on s'est inspiré des mangroves, des herbiers marins, des fonds rocheux, et on a créé des Legos sous-marins qui sont formés à partir finalement de cavités qui sont en 3D. On les fabrique par impression 3D grande échelle avec un mortier. Donc c'est pas un béton, c'est un mortier, c'est de l'eau et du ciment qui est bas carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'eau et moins de ciment.
Ah, c'est ça que ça veut dire,
ouais,
bas carbone.
Bas carbone, absolument.
On dit toujours bas carbone, mais on n'arrive pas
à définir ce que c'est. Alors oui, non, mais vraiment, il y a moins d'eau et moins de ciment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout le cycle de vie, finalement, du matériau. C'est-à-dire de l'extraction. Donc ça peut être soit la méthode d'extraction, soit la source du gisement, jusqu'à son utilisation. Bah, finalement, il y a plein de méthodes pour diminuer l'empreinte carbone.
D'accord.
Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller diminuer cette empreinte-là. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Il y a énormément d'efforts qui sont fournis de la part des cimentiers. Donc nous, on s'est rapprochés d'eux pour formuler le mortier line-up, qui en plus d'être bas carbone, est coquillé. C'est-à-dire que dans le ciment, on va remplacer une partie du sable par de la coquille d'huître broyée et recyclée. Ça, ça permet deux choses très rapidement. Ça permet de mariniser le matériau, donc il est déjà plus résistant.
Mariniser.
Alors, ouais, complètement.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire être...
le rendre marin.
le rendre un peu plus marin. En tout cas, il est forcément plus apte à intégrer l'environnement marin. Et il est également propice à la colonisation de la vie marine. On verra peut-être plus tard que le rôle de la vie marine est très important dans l'atténuation des...
Alors, globalement, ça veut dire que dans les trous, en fait, dans les alvéoles,
dans les alvéoles, ouais, tout à fait,
de votre récif artificiel, oui, que vous avez, oui, mis en ligne, il y a enfin, la vie vient se loger, quoi.
Tout à fait, elle vient se fixer, et ça part des premiers maillons de la chaîne alimentaire marine, en fait. C'est des
et
premières
alors, ça,
bactéries.
C'est très important, parce
tout
que
à fait.
Il faut rappeler quand même que les épis et les récifs qui étaient faits faisait en même temps diminuer la biodiversité.
Alors, il l'a diminué d'une certaine manière et
il l'a bloqué en tout cas.
En tout cas, voilà, c'est disons que
ils
c'est des effets opaques.
Fonctionne.
Il y a des, ben, pff, comment dire, c'est pas si simple que ça, parce que quand même, si on va plonger sur les brise-lames et les épis, il y a de la vie. Il y a quand même beaucoup de vie. Il y a de la surface d'habitat. La seule différence, contrairement aux solutions qu'on développe, c'est qu'il n'était pas conçu pour accueillir la vie marine. C'est elle qui se l'est appropriée. Donc, quand on mesure l'état écologique de la vie marine, il est quand même pas si mal sur les digues et tout ça. Mais bon, il n'est pas optimal, en tout cas.
Et puis, il a mis plus de temps.
Il a mis un certain temps, mais c'est surtout, on n'a pas forcément une grande diversité d'espèces, d'algues même. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer ça, d'avoir une double fonction, voire même triple. C'est vraiment que ces digues, elles permettent d'atténuer les risques littoraux en dissipant l'énergie des vagues. Également de servir d'habitat et de nurserie pour des espèces marines locales. On ne va pas ramener des dauphins non plus, hein, ce n'est pas le but, mais on va créer de la surface d'habitat pour les poissons. Et la troisième chose, c'est que si vous agissez sur les vagues et sur la vie marine, vous en faites d'office un spot de plongée et de surf.
Mais vous avez oublié aussi la chose, le sable.
Oui.
Finalement, il a aussi votre line-up a aussi une action sur le sable.
Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de permettre à la plage de s'accroître, de s'engraisser. On va parler d'engraissement. C'est-à-dire qu'elle va être, on va diminuer l'énergie des vagues. En diminuant cette énergie, la plage, en période de tempête, elle va être un petit peu plus, comment dire...
Elle va être plus protégée.
Voilà, elle va garder de la vitalité. C'est-à-dire qu'elle va être en capacité elle-même de s'adapter, de se relever d'une tempête qui aurait pu l'agresser. Elle va pouvoir finalement se propager un petit peu vers le large en réengraissant la surface de plage. Voilà.
Mais est-ce qu'on va voir quand même se former au-delà de la ligne de récif ces espèces de dunes, quoi, de dunes sous-marines.
De dunes sous-marines, les barres sableuses avant-côte. Ça, on sent l'experte derrière du sujet. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir capter... Nous, on a beaucoup étudié les barres sableuses grâce au suivi vidéo qui a été mis en place sur Palavas. On les a suivis pendant 4 ans et on a compris leur dynamique.
Puis ce qui s'est passé au Grand Travers, surtout.
Oui, puis même un petit peu partout, puisque c'est vraiment un profil type qu'on retrouve sur toute la façade d'Occitanie. Il y a plusieurs choses qui sont importantes et je ne vais pas pouvoir tout expliquer aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plage, elle a un certain visage en été et elle a un certain visage en hiver. L'idée, c'est de dire que finalement, le visage qu'elle a en été, il est plutôt en bonne santé. Le visage qu'elle a en hiver, il peut être plutôt en mauvaise santé. On va donc essayer de mettre en place des solutions pour permettre à la plage d'être toujours en bon état de santé. Et ce bon état de santé, il passe par, effectivement, un positionnement, une fixation des bancs de sable, des barres sableuses d'avant-côte, des dunes sous-marines. Voilà, donc effectivement, on a un rôle à jouer dans la captation de ces barres et dans leur stabilité, on va dire. Sachant que les brise-lames, juste pour revenir à ce qu'on disait avant, les brise-lames, eux, ils les ont énormément perturbés. Voilà. Et on le voit très bien en caméra, c'est des résultats qu'on a montrés à Palavas et qu'on montrera au public. Et donc, c'est un rôle qui est très important dans notre solution.
Alors, parlons maintenant donc de la suite qui va être donnée. Vous allez mettre en place vos line-up sur combien de mètres? Parce que finalement, si on va, on regarde le littoral de Palavas, il part à peu près, d'Ifremer, de Maglone jusqu'à Carnon. Ça fait 7 km, c'est long quand même.
Oui.
Et votre essai à vous, il va faire combien de mètres?
Alors, nous, ça va être quelques dizaines de mètres puisque c'est un projet
dizaines
pilote.
Seulement, même
oui,
pas,
bien sûr.
Même
Bien sûr. Non, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'expérimentation et de mesures très, très qualitatives.
Et on peut tirer des conclusions de quelques mètres.
Oui, tout à fait. En termes de services hydrosédimentaires, si demain, je veux vous montrer que sur la base d'un segment de récif, je suis capable de dissiper l'énergie des vagues, de faire varier le niveau d'eau et de permettre la sédimentation, ça, je peux vous le prouver, ne serait-ce même que sur un segment. Après, l'idée,
vous pouvez
c'est
me le prouver mathématiquement, mais oui. Est-ce que vous allez me le prouver écologiquement sur le temps je ne suis pas sûr.
En fait, c'est des premiers éléments qui vont permettre de projeter la mise en œuvre de ces solutions-là à une plus grande échelle. De toute façon, on est obligé de passer par là. Aujourd'hui, c'est le temps.
Attends, vous êtes obligé à cause des moyens.
Non, mais pas que des moyens. C'est-à-dire qu'on a plus intérêt à déployer certaines expérimentations qui sont plutôt assez petites en termes d'échelle, certes, mais qui aujourd'hui vont permettre d'alimenter énormément l'état de l'art, plutôt que de faire des gros projets pilotes sans même savoir finalement dans quoi on s'embarque. Moi, je préfère bien connaître ma solution à la plus petite échelle possible, plutôt que de porter des projets qui sont trop ambitieux à l'heure actuelle et qui ne répondront pas sur le long terme au calendrier climatique en faisant de la maladaptation. Clairement, c'est vraiment c'est une autre manière
Alors,
de voir les choses.
Alors, quel type de maladaptation vous craignez dans votre projet ? Parce Alors, que je suppose que vous avez quand même étudié obligatoirement, d'après ce que vous me dites.
Oui, mais on a étudié autant la partie océanographique finalement du site que la partie biologique ou écologique et également socio-économique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement temporiser les impacts. Pour temporiser les impacts, on a besoin à certains endroits, et je dis bien à certains endroits, de mettre des solutions parce qu'on est derrière repris par des enjeux socio-économiques.
Rien compris du tout. Okay, alors bon, reprenons. Donc qu'est-ce que vous évitez?
Alors ce qu'on veut éviter c'est que la plage ne puisse pas être résiliente sur le long terme,
d'accord qu'elle ne voilà. puisse pas réagir donc d'elle-même
voilà, exactement, correctement. Donc pour ça il y a des processus physiques derrière qu'il faut mettre en œuvre. Ces processus-là, en fait, si vous les analysez à trop grande échelle, avec trop de récifs dans l'eau, finalement, vous ne pouvez pas vraiment comprendre le rôle d'un seul récif dans tout ce système-là. Donc, vous ne pouvez pas comprendre les interactions entre ces récifs. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas une connaissance robuste de tout votre dispositif. Donc, certes, moi, je fais une petite expérimentation et il ne faut pas s'attendre dans l'année qui suit à une réponse de la plage. Ce n'est pas le but.
Dans combien de temps, alors ?
Le temps qu'on développe un ouvrage qui, lui, fera à peu près plus d'une centaine de mètres sur la plage. Et après, on rejoint les cycles naturels.
Donc, vous donnez combien de temps à peu près pour avoir des résultats ?
Pour l'expérimentation, clairement, sur le plan scientifique, ça va aller entre 3 et 10 ans. Clairement. Entre 3 et 10 ans. C'est exactement ce qui s'est passé avec les atténuateurs de houle. Auparavant, qui étaient également des solutions. Aujourd'hui, la technologie est qualifiée de robuste, même s'il y a de la maladaptation dans ces solutions-là. Mais pourquoi on la qualifie de robuste ? Parce qu'on a 10 à 15 ans.
Il y a encore des maires qui en
demandent. Voilà, bien sûr. Et nous, on se positionne comme alternative. Mais bon, voilà, on manque de recul, comme plein d'initiatives, également celles qui ont été portées au Gros d'Agde et tout ça. On manque encore un petit peu de recul, parce que la nature, elle met du temps à réagir. La plage, elle met beaucoup de temps. Elle met à peu près une dizaine d'années, pour avoir des premiers résultats.
Vous n'allez quand même pas rester pendant 10 ans sur 10 mètres.
Non, bien sûr que non. L'idée, c'est de pouvoir étendre le dispositif. Là, on fait une petite expérimentation pendant quelques mois. Ensuite, voilà, par la suite, on va rajouter d'autres récifs pour pouvoir agrandir notre pilote. Et là, on aura un résultat visible sur la plage.
Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps.
Oui.
Y a plein de lois en ce moment qui sont en train de voir le jour. On ne va pas malheureusement les prendre une par une. Mais est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, que vous êtes dans les clous ou que vous arrivez à travailler? Et notamment, par exemple, on parle d'intercommunalité. Or, beaucoup, parce qu'on pense beaucoup justement en longueur et en temporalité.
Oui. Complètement.
Et vous venez là de me parler de petits essais sur du court terme, donc ça m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu que les communes avoisinantes participent à votre expérience ?
En fait, chaque commune aujourd'hui peut porter sa propre expérimentation en fonction de sa philosophie. Oui, c'est bien parce que ça... Alors, Ce qu'il faut savoir, si on prend l'exemple local, le Golfe d'Aigues-Mortes, est-ce que vous savez qu'il y a une entente qui existe, qui s'appelle l'entente du Golfe d'Aigues-Mortes, et qui rassemble 4 PCI, à savoir 7 agglopoles, la métropole de Montpellier Méditerranée, Pays de l'Or agglomération et Terre de Camargue. Donc ça va de Frontignan jusqu'au Gros-du-Roi. Et cette entente-là, elle rassemble toutes les communautés, toutes les communes en fait du littoral du Golfe d'Aigues-Mortes.
De Gruissan.
Non, l'entente, elle
oui,
va vraiment que.
Elle s'arrête à Frontignan.
C'est que le Golfe d'Aigues-Mortes, voilà. Et c'est cette entente-là qui porte et pilote les projets. C'est une entente qui est assez récente. Elle a été créée en 2024. À la volonté justement de l'ensemble des élus. Et donc ça, c'est un très bon exemple de projet intercom. Mais Frontignan ne va pas porter la même stratégie que Palavas parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux et les mêmes problèmes. Alors, le problème commun au Golfe d'Aigues-Mortes, c'est qu'on a perdu 80% du sable depuis les dernières décennies. Ça, c'est le problème commun.
Il y a quand même des choses communes, oui,
ouais,
d'accord.
Tout à fait. Mais par contre, la réponse de Frontignan, par exemple, ne sera pas la même que la réponse
nature,
de Palavas.
On va laisser la nature...
On va essayer de reculer, potentiellement. En tout cas, Frontignan est inscrit dans la liste des décrets des villes qui veulent expérimenter le recul du trait de côte. Le recul de la ville. Voilà, alors que Palavas,
c'est
plutôt dans une adaptation physique.
D'ailleurs, Frontignan plage. Hein,
oui, mais parce que, justement, même si ça reste assez local, finalement, plus spécifiquement, chaque commune va pouvoir adopter une stratégie d'expérimentation et de réponse.
Sur Frontignan, c'est qu'on a la grosse expérience du Conservatoire du Littoral sur la renaturation entre Frontignan.
Au niveau
plage,
des Arresquiers, oui, tout à fait.
Arresquiers,
oui, oui, oui.
Ça fait partie
des exemples qui ont alimenté cette réflexion et cette entente dans les années précédentes.
Alors, Robin, il nous reste même pas une minute. Est-ce que on aurait oublié de dire quelque chose de très important.
Pour moi, ce qui est important, c'est que y a un calendrier. Il y a un calendrier qui nous attend tous, qu'on soit élus, collectivités, citoyens, porteurs de projets scientifiques. Ce calendrier, il est en 3 temps. Il y a un calendrier climatique, il y a un calendrier au niveau des territoires et un calendrier au niveau des porteurs de projets. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir temporiser les impacts du changement climatique dans les 15 prochaines années. La suite, c'est d'ici 30 ans, maîtriser les évolutions du climat et les comprendre parfaitement et savoir dans quelle trajectoire on s'inscrit. Est-ce que ça va être dramatique ou pas ? Et la fin du calendrier, c'est d'ici 90 ans pour évoluer convenablement sur le littoral et que la population littorale et réappris à vivre en harmonie avec la nature. Voilà.
Alors, à dans 90 ans, en espérant qu'on n'aura pas de Trump entre-temps. À bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.